Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. En ce dimanche, prenez-vous un bon café. Sujet très intéressant. On parle en premier lieu de vices cachés. Peut-être certaines personnes ont déjà eu des problèmes. On vous donne des trucs ou des choses à ne pas oublier pour pas avoir de problème plus tard. Et on part de la nouvelle que Gilbert Rozon a une autre poursuite, mais cette fois-ci, c'est en vices cachés. On en parle avec Maître Jean-Paul Boily. Guy Ouellet obtient des excuses de l'UPAC. On s'imagine qu'il y a eu un règlement hors cours parce qu'il poursuivait l'État. Quand même, on se rappelle de Chagnon qui disait « accusez ou excusez-vous », ben là, on s'excuse. On revient sur les pensionnats autochtones, la réalité autochtone d'aujourd'hui. Il y a Jean-Claude Terrien, directeur du cabinet pour le chef Mike McKenzie, qui nous explique comment on voit les pensionnats, puis c'est quoi la réalité de nos jours des réserves? On revient sur l'attaque de London. Il pourrait y avoir des accusations de terrorisme. Il y a Maître Jean-Pierre Rancourt qui nous explique tout ça. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Gilbert Rozon est maintenant poursuivi pour vices cachés. Ça, vous savez, les vices cachés, c'est quand on vend une résidence. Et là, il y a un problème qu'on ne pouvait pas détecter à l'achat, même en l'inspectant. Et là, ce vice caché-là, le propriétaire qui était là lorsque le vice était effectif doit rembourser le nouveau propriétaire. Mais imaginez-vous donc un peu la misère des riches parce que c'est des gros montants dont on parle, mais on parle d'une vente, là, d'une maison luxueuse de 5,1 millions. Et là, le nouvel acheteur aurait trouvé des vices cachés pour 400 000 $ pour quelqu'un de normal, c'est des gros montants, mais des fois...
Au c'est de l'argent de poche.
Dans mes rêves, disons. Maître Boily, que vous reconnaissez, qui est avec nous, on va vous expliquer c'est quoi un vice caché.
Ben oui.
Quoi un vice caché?
Ben, c'est un vice qui...
On entend ça partout.
On entend souvent, puis on va l'expliquer, là. Un vice caché, ça le dit, c'est un vice qui n'est pas apparent, puis... Vous savez...
caché.
Gilbert Rozon a étudié en droit, vous ne saviez peut-être pas, là, mais il y a eu un professeur qui est le même que moi, qui s'appelle le professeur Martineau, qui est décédé aujourd'hui, et qui était le professeur du droit des obligations. Et c'est lui qui nous a appris c'était quoi un vice caché. Alors, vous le savez, Maître Bernier, vous savez ça par cœur, c'est l'article 1726 du Code civil que vous avez appris dans vos...
C'est études. La hantise des vendeurs, parce que même après 50 ans,
maintenant,
vous pouvez avoir une lettre disant... c'est des chaînes.
Des chaînes.
On appelle l'autre, puis ça
si
finit plus.
Si vous n'avez pas une clause qui...
Au risque et péril, sans garantie légale.
Exact, sans garantie légale, vous pouvez être... J'ai eu un procès dernièrement où il y avait 7 anciens acheteurs. On a monté jusqu'à 35 ans. On a réglé finalement, mais ce que ça dit, l'article du Code civil, on dit que c'est le vendeur qui est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempt de vice caché. Et c'est quoi un vice caché? Ben, le Code le dit. C'est un vice qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté. Et là, la dernière phrase, c'est importante. Ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connus. Alors, là, dans ce cadre-ci qu'on a, puis évidemment, on a juste la poursuite. On n'a pas la défense, on ne sait pas ce qui est arrivé, etc.
Ouais.
Mais ce qu'on a vu dans la poursuite cette semaine, c'est que les gens ont dit, écoutez, nous autres, on a acheté une belle maison, là, on la voit, une belle photo, 5,1 millions. Et cette maison-là aurait appartenu à M. Rozon et à sa conjointe. Et puis, lorsqu'il a été vendu il y a un an ou un an et demi, parce qu'on va parler du délai après ça, on n'aurait pas divulgué qu'il y avait déjà eu un incendie à la maison. Bon, ça peut, puis en vertu des règles sur le courtage immobilier, ce sont des déclarations qui sont importantes, on doit les divulguer. On parle pas nécessairement de vice caché, parce que faut comprendre que ces gens-là aussi, ce que j'ai lu encore une fois, ont engagé un architecte pour faire des vérifications. Parce que lorsqu'on achète un bien, vous, je comprends que vous achetez des véhicules et des maisons de façon régulière et que vous n'avez pas besoin d'experts, mais
croyez-le,
les gens qui achetaient une maison à 5 millions, ben c'est pas comme aller s'acheter un sac de chips au dépanneur. Hein? Il faut consulter des experts. Et puis, ce que le code dit, ça, il dit que c'est pas on n'est pas tenu de garantir le vice caché lorsqu'il est connu de l'acheteur ou qui aurait pu être connu par un acheteur prudent. C'est quoi un acheteur prudent?
Le bon père de famille.
Oui, mais c'est surtout quelqu'un qui, s'il paye 5 millions pour une maison, ben, va aller voir un expert puis va lui demander...
Monsieur, mais c'est pas obligatoire, par
contre. Non, c'est pas obligatoire, ouais. Mais c'est fortement recommandé,
ben oui.
Surtout lorsqu'il peut avoir des signes. Bon, là, dans ce cadre...
L'expert n'est pas obligé d'ouvrir les murs.
Non, effectivement, mais il faut qu'il y ait des signes. Et là, ce qu'on nous dit, encore une fois dans la poursuite, c'est qu'il y aurait eu des problèmes, il aurait fallu refaire le système électrique à cause, justement, du fait qu'il y a déjà eu un incendie. Ouais. Est-ce que ça, c'est à cause de l'âge de la maison ou à cause qu'il y a déjà eu un incendie? Ce sont des questions que le tribunal aura à regarder. Monsieur Roson va certainement produire une défense.
L'œuf ou la poule, c'est
ben, voilà.
Même. Mais qu'est-ce qui a causé quoi?
Qui a causé
puis,
quoi?
Parenthèse, ouais. Des fois, justement, vous parliez des délais.
Ouais.
Quand le vice,
ben, voilà.
Moi, j'ai vu des dossiers où est-ce qu'on trouvait, le monde patchait des réparations avec des bouts de journaux.
Oui.
Et là, on servait du journal qu'il y avait dans le
pour
mur
savoir quand
pour mettre une date.
Effectivement. Parce que ça, c'est des, ça peut être des indices. Mais vous savez, un vice qui est un vice caché doit vraiment être caché. Lorsque vous avez, par exemple, dans votre fondation du sol, il y a des traces d'eau, on voit un peu de rouille, des choses comme ça. Ce sont des signes. Même chose pour le plafond. Alors, faut pas penser que parce que les gens, les vendeurs, vous ont dit « Ah non, c'est pas grave ça, parce que ça se maintient un peu. » C'est des signes qui doivent faire allumer un acheteur prudent, comme le code le dit. Et puis c'est là qu'on doit, on doit pas nécessairement consulter un professionnel pour lorsqu'on achète une résidence, par exemple, neuve ou une résidence qui est peu âgée. Mais lorsqu'on a toujours dit, l'âge, c'est comme moi, pas vous.
Vieillir,
c'est pas un vice.
Vous êtes comme le bon vin.
Exact. L'âge, c'est pas un vice. Un immeuble aussi. L'âge d'un immeuble, c'est pas un vice.
Ouais.
Le fait, par exemple, vous achetez un immeuble qui a plus de 40 ans, ben, si la toiture a pas été refaite, ça se peut qu'une toiture, au bout de 30, 35 ans, doive être refaite. Hein?
Ou le fameux drain français.
Et là, voilà.
Il y a des débats.
Il y en a beaucoup.
Est-ce que c'était l'âge ou est-ce que...
Et voilà. Donc, faut que les gens soient prudents là-dessus. Dans le cadre d'une poursuite, il faut démontrer, puis là, on parle de délai. Parce que lorsque vous rencontrez un vice qui est caché, donc vous pouvez pas savoir qu'un expert pouvait même pas découvrir, parce que on dit qu'on n'a pas à défaire les murs, mais on a à défaire les murs s'il y a des indices, par exemple,
oui.
On voit quelque chose de brûlé dans un coin, puis on va pas voir plus loin, on peut dire, ah non, c'est pas caché, c'est apparent. Alors, faut aller voir. Et puis là, il y a un délai. Parce qu'on dit, lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un, vous avez 3 ans de la découverte du vice. Mais si vous poursuivez, vous devez, dans un délai raisonnable du moment où vous trouvez le vice...
Tous en cœur, dénoncer le vice.
À la personne qui vous l'a vendu.
Oui. Et là, permettez-moi une parenthèse.
Oui.
Dénoncer le vice par écrit.
Oui.
Ça, là, le méchant Maître Barnier, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai démoli quelqu'un qui poursuivait parce qu'il n'y avait jamais dénoncé... par écrit. J'avais été très méchant, je m'en vais encore.
Pas gentil.
Et j'avais cassé le recours comme un vase qu'on tire à terre de cristal. Paf! Parce que la personne n'avait pas dénoncé par écrit.
Oui,
bon.
Parce
et
qu'il faut
deuxième conseil dans ma propre parenthèse, là, ça, j'ai vu des histoires d'horreur, mais des divorces, des histoires de couple. Faites une chose si vous achetez une maison. Parce qu'il y a bien des vices, Maître Boilly, on sait. On va s'en remettre. Là. Bon, il y a la salle de bain, il y a ci, il y a ça, peu importe. Mais les fameux champignons. Là.
Ouais,
demandez à votre expert d'arriver avec une petite machine d'humidité. Tester. C'est ça qui donne l'indice. Hey, j'ai vu des couples se détruire parce que la maison était toute belle. Il apprenait qu'il y avait des champignons. C'était dehors, drette là. Le linge, il fallait le jeter.
Ouais.
Imaginez, ils se sont ramassés avec une hypothèque qu'ils devaient payer, avec une maison qu'ils ne pouvaient pas utiliser.
Exact.
Du moins, en tout cas, moi, je pense que le pire vice, c'est cette humidité-là.
Testez-la,
il y a des machines pour ça.
Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est un qui est une problématique importante. Il y en a beaucoup. Il y a des toitures aussi. Des fois, des gens ne le voient pas, puis ça coupe. coule rendu au printemps. Puis là, on dit, oh, le vis, oui, mais c'était pas caché. Regardez, c'était, on le savait, la toiture aurait dû être faite, etc. Alors, il faut être prudent. Il faut surtout pas penser que parce qu'on découvre quelque chose, que c'est un vis caché. C'est là qu'il faut faire attention. Lors d'un achat, c'est important, d'abord, de poser des questions, d'écrire aussi. Parce que souvent, les gens disent, oh, pas grave, l'ordre d'achat, on va passer chez le notaire. Oui, mais attends un peu. Vous savez qu'une offre d'achat acceptée, c'est une vente. Le contrat chez le notaire, ce n'est que l'exposition vis-à-vis des tiers, parce qu'on l'enregistre au bureau d'enregistrement, et ce n'est que la confirmation vis-à-vis des tiers que vous avez acheté. Mais l'offre d'achat que vous avez signée, les documents, les annexes, que vous avez, ça, là, n'ayez pas peur de mettre là-dedans toutes les conditions, par exemple, on vous a dit telle chose sur la maison, que la toiture a été refaite, que le sous-sol ne coule pas, que le drain français est correct, etc. Ça, ce sont des choses. Les courtiers qui sont avisés le font généralement. Mais il y en a des fois qui sont plus pressés de faire une vente, puis ils passent à côté.
Moi, je conseille toujours, t'es mieux d'en dénoncer plus.
Ouais.
Puis après ça, surtout en ce moment, le marché est tellement bon, le monde va l'acheter pareil.
Exact, c'est ça.
Puis, autre parenthèse aussi, faites attention, on entend souvent des vente sans garantie légale.
Ça aussi.
Ça, c'est une chose, ça peut vous protéger des poursuites. Cependant, si vous saviez qu'il y a un vice,
vous
ça
ne
vous protégera pas.
Non.
Pour être totalement protégé, il faut que ça soit sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur.
Ça
protège.
Ça arrive et que dans les dossiers que j'ai vus, moi, effectivement, il y a des gens qui ont évité des poursuites à cause de ça.
Ouais.
Mais même à ça, si l'acheteur est capable de démontrer que le vendeur le savait et ne lui a pas dit que c'était un vice caché, il pourrait quand même y avoir une poursuite. Mais là, encore une fois...
Au risque et péril, les juges, ils disent...
Il y a des gens...
Il y a des gens,
effectivement, vous savez, des fois, il y a des successions. Hein, on se ramasse avec une maison, les gens n'ont pas resté
ben là. Ça coupe la chaîne.
Les gens disent, écoutez, moi, mon père, ma mère avaient cette maison-là. Écoutez, faites-la examiner comme il faut. Moi, je ne peux pas rien vous garantir. Moi, je vous la vends à un prix raisonnable. Faites examiner. S'il y a des travaux à faire, faites-le, mais moi, je ne m'en tiens pas responsable.
C'est ça. Peut-être qu'il a vu essayer, puis fous-moi à paix s'il y a un problème.
Ahmed
Boily, en rafale, qu'est-ce qui est un vice, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. On va voir si vous êtes aiguisé.
Ouais.
Suicide dans une maison, on dénonce, c'est un vice caché.
Il faut le dénoncer.
Ouais. Mort naturelle dans la belle mort, obligé.
Non, pas obligé, non. Okay. Mais il reste que s'il y a quelque chose de moindrement soupçonneux dans la mort de quelqu'un, vous êtes mieux de le dénoncer, parce que là aussi, il peut avoir des problèmes.
Donc, une mort violente, il faut le dénoncer.
Oui, tout à fait.
Excusez, je ris, c'est pas drôle.
Non.
Mais on a vu tellement d'histoires avec ça.
C'est arrivé.
Et la dernière, j'ai gardé la dernière pour la cerise sur le sundae, le voisin. Le voisin qui fait qu'on fait des cauchemars, c'est un vice caché, ça? Ouais.
Ça, c'est une belle... En jurisprudence, vous savez, des fois, là, il y a des juges qui vont accrocher là-dessus, d'autres non. C'est évident que si tout le voisinage sait qu'il y a un voisin qui est déplaisant, qui fait des feux le soir à 11h, puis il chante à 3h du matin...
S'il y a eu des procédures avec, on le dénonce?
S'il y a eu des procédures, c'est clair, il faut le dénoncer. Mais s'il n'y en a pas eu, le problème est très, très, très aigu. Et ça, ben, je vous souhaite juste d'avoir un bon juge si jamais vous voulez le dénoncer, parce que c'est pas évident.
Puis je vous dis que c'est pas un débat qui est réglé en
passant. Non, loin d'être réglé.
Et dernièrement, par contre, un jugement où est-ce que le juge interdit au voisin turbulent d'aller chez lui.
Exact.
C'est impressionnant.
Oui. En disant, regarde, reste chez vous tranquille, sinon, je vais te mettre une injonction, puis si tu n'écoutes pas, on va te mettre les bracelets, puis on va te rentrer dedans.
On s'entend-tu qu'il ne devait pas être reposant?
Exact.
Merci, Matt Boily.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, rappelez-vous les paroles du président de l'Assemblée nationale, Chagnon. Eh bien, cette semaine, on s'est excusé parce que le grand patron de l'UPAC, Frédéric Goudreau, s'est excusé pour ce qui s'est passé avec Guy Ouellet, le député de Chomédé. Ça ressemble à un règlement hors cour parce que il y avait une poursuite d'à peu près un demi-million contre l'État de Guy Ouellet. Et ça, je peux vous le dire, souvent dans les règlements, on demande de l'argent et on demande des excuses. Là, ça semble avoir passé. On se rend compte qu'on a commis des erreurs là-dedans parce que on se rappelle, il y avait tout le privilège parlementaire. Lorsqu'on on arrête un député, il y a toute une procédure, un peu comme quand on arrête un avocat. Il faut aviser le barreau pour que ça soit fait dans les règles du secret professionnel. Mais pour l'Assemblée nationale, il y a ces règles-là. Et je suis pas sûr que Boulanger, le policier de l'UPAC qui était là à l'époque, connaissait toutes ces règles-là parce que on a arrêté Guy Ouellet et on n'a pas fait ce qu'il fallait. L'Assemblée nationale n'était pas avisée en bonne et due forme pour tout ce qui était de l'enquête. On en parle avec un policier à la retraite qui va bien nous expliquer ça. Daniel Clérou qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Bernier. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'être là parce que, bon, on peut avoir... tu peux nous faire voir un peu de l'interne, comment ça fonctionne. On va se rappeler un peu les faits là, du départ. Là. On essaie d'appâter, on fait sortir le gibier du trou, comme on dit, en disant un petit texto, une petite rencontre avec quelqu'un à telle place. Et là, bang, on l'arrête. Comment t'appelles ça? Puis c'est vrai, il disait c'était soit un hameçonnage, mais c'était pas vraiment hameçonnage, ça avait un autre mot. Ça existe. Les policiers peuvent faire ça, là, donner un lieu de rendez-vous pour procéder à une arrestation.
Dans certains cas, ça existe. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent là, en anglais, on appelle ça entrapment. Là. C'est le fait de provoquer quelque chose pour attraper quelqu'un sous de faux prétextes. Ça, c'est illégal. Par contre, le principe du hameçonnage, comme il disait, c'était compliqué cette histoire-là. C'est qu'on voulait avoir... on voulait le faire sortir dehors pour pouvoir l'arrêter différemment parce que les mandats permettaient pas tout.
Ouais.
Ce qui est compliqué dans l'histoire des mandats, c'est que on présente ça à un juge, c'est souvent un juge de paix, puis selon les informations qui ont l'air pertinentes, selon la bonne crédibilité des policiers, ben le juge autorise des mandats. Et on sait que les avocats de la défense, quand ils se mettent à contester des mandats, ben il en gagne, je dirais pas un gros pourcentage, mais il en gagne quelques-uns quand il voit que ça vaut la peine de le laisser.
Ben ouais, le diable est dans le détail. Quand on se met à mettre ça sous la loupe, il y a ça, puis c'était pas légal.
Ouais. Bon. Tu sais, quand on fait face à des grands criminels notoires qui ont pas une très grande crédibilité, les avocats vont pas nécessairement aller s'attaquer au mandat parce que finalement la crédibilité du suspect est tellement pas bonne que ça c'est peine perdue. Mais dans le cas de Guy Ouellet, qui est bon un ancien policier réputé, qui a longtemps été le... Écoute, c'était le fantôme des Hells Angels à l'époque. Lui, il a débroussaillé un petit peu tout ça. Il y avait des méthodes qui étaient peu orthodoxes, qui aujourd'hui ne passerait pas. Mais à cette époque-là, ça fonctionnait. Et bon, peut-être c'est à cause des gars comme lui qu'on a des lois aussi sévères aujourd'hui, puis une charte aussi compliquée. Mais à l'époque, ça marchait. Et il s'est pas fait des amis, Guy Ouellet, à l'époque. Hein. Et Robert Lafrenière était pas un de ses amis, ça, je peux te dire ça.
Non.
Fait que, non, c'était pas des grands amis. C'était vraiment des compétiteurs.
Ça n'a pas aidé son arrestation parce que c'était Robert Lafrenière qui était en tête de tout ça. Là.
Oui, effectivement. Et écoute, moi, pour avoir travaillé avec Robert, j'y aurais donné, à l'époque, j'ai travaillé avec lui, la bénédiction sans confession parce que c'était un homme que je considérais très intègre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On ne le sait pas trop parce que Robert, il n'a jamais sorti de son mutisme après avoir donné sa démission, fait qu'on en saura peut-être jamais rien, à moins qu'un jour il y ait une commission d'enquête qui soit obligée d'aller témoigner sous serment. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enquête mâchurée, ça regarde pas bien, ça l'a traîné. Le commissaire Gaudreau aujourd'hui a offert ses excuses à Guy Ouellet, mais faut écouter aussi que l'enquête n'est pas terminée. Il y a encore Monsieur commissaire Gaudreau a encore dit qu'il restait peut-être encore un gros 2 ans à cette enquête-là.
Ah ouais. Parce que Guy Ouellet, on l'accusait d'avoir fuité, comme on dit.
Oui, on l'accusait d'avoir fuité. Parce que Guy Ouellet,
coulé.
il avait toujours la réputation de savoir beaucoup de choses et puis s'approprier beaucoup de crédibilité dans des arrestations.
Mm-hmm.
Je dis pas à tort, mais il faisait pas toujours plaisir aux gens qui l'entouraient.
Okay.
Évidemment, il y a des choses qu'aujourd'hui, on peut pas dire encore, mais évidemment, dans cette enquête-là, Machuri, il semble avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas été bien validées. Bon.
Ouais.
Quand tu regardes tout ça, là, François, moi, si ça me rentresse tout ça, là, je vais te dire pourquoi. Quand tu regardes un petit peu l'histoire des directeurs de police puis des responsables de les hauts gradés, la Sûreté du Québec n'a pas une très belle histoire présentement. Là.
C'est, en ce moment, non, avec...
Non,
avec,
Robert, il arrive de la SQ.
Ouais.
Là, si on se souvient, Richard Deschênes, il était sous le gouvernement Charest. Quand Marois est arrivé, Deschênes a sauté. On a eu Stephen Chabot qui a été accusé d'avoir fraudé, d'avoir joué dans une petite caisse, toutes sortes d'affaires. Il a été reconnu non coupable, mais ça laisse un goût amer.
Ça laisse un goût amer. On pense à Martin Prudhomme aussi.
Martin Prudhomme qui, tout d'un coup, a sauté, puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis lui, présentement, bien évidemment, lui-ci fait une poursuite. Fait qu'on fait toute attention à ce qu'on dit parce que tout le monde se poursuit là-dedans. Du temps du gouvernement Marois, on a eu la nomination de Mario Laprise. Aussitôt que les libéraux sont revenus au pouvoir, oups, on a perdu Laprise. C'est devenu un autre. Ça est devenu Martin Prudhomme. Et là, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un directeur de police qui est pris dans
la tourmente.
Une tourmente. Philippe Piché à Montréal.
Oui, Philippe Piché aussi.
Il a été obligé de quitter parce qu'on dit que peut-être qu'il y aurait eu des gens qui auraient été protégés à l'interne. On aurait essayé de faire passer sur le dos de certaines polices des choses qui ont été faites. Yvan Delorme qui a quitté un petit peu sans trop savoir pourquoi, alors qu'il y avait une histoire de peut-être qu'il aurait avantagé du monde.
Ouais, mais...
je retiens là-dedans, moi. Les têtes dirigeantes des gros corps de police sont beaucoup trop proches de la politique et ça discrédite tout le travail présentement des policiers qui, à la base, est bien plus grand que juste les dirigeants eux-mêmes.
Oui, mais c'est vraiment, t'as raison, mais c'est comme, c'est bizarre que tout ça arrive en même temps. Je sais pas si moi, mon impression, là, l'UPAC, là, on s'entend-tu que c'était un nouvel genre de business, là, de se mettre à enquêter ses patrons, là, c'était du nouveau. Puis, Commission Charbonneau qui nous a fait réaliser que le mal était autour de nous chez certains dirigeants qui avaient de la corruption. Et là, j'ai l'impression que le balancier il est allé à l'autre bout. Là. Puis là, on s'est mis à chercher le mal un peu partout. Puis à enquêter, à mettre le monde sur la sellette, sur le spotlight. Mais une fois qu'il était mis sur le spotlight, il n'y a personne, puis qu'on disait qu'il n'y avait pas d'accusation criminelle, il n'y a personne qui voulait voir là après parce que le doute subsistait.
Mais non.
Fait que c'est bizarre ce qui s'est passé.
Il y a beaucoup de stratégies là-dedans politiques. Tu sais, la commission Charbonneau avait un mandat d'enquêter sur la corruption. Puis là, tout le monde voulait que la commission enquête sur les partis politiques. Mais le mandat n'était pas nécessairement ça.
Mmh.
Fait que ça l'a laissé un goût un petit peu amer. Et là, on s'aperçoit que la police commence à prendre un autre tournant, entre autres avec l'UPAC, qui était là pour aller vraiment chercher la corruption. Et là, on s'attaque à la politique, et finalement, ben on fait quoi? On dit, ah, les enquêtes sont mal faites, on revire ça sur la police. Mais finalement, on n'a pas pris personne trop, on n'a pas trop condamné le monde dans les dernières années pour de la corruption.
Non, mais de briser des noms, ça, c'est sûr. Mais
ouais, ben oui.
Il y a des poursuites de tous les bords aussi. Là. Guy Ouellet en était un de ceux qui poursuivaient parce qu'il prétendait. Puis là, maintenant, on peut dire qu'il avait raison, qu'il a été sali à tort. Là. Hey, de se faire arrêter comme ça, là, je veux dire, c'est un ancien policier, ça frappe l'imaginaire. Là. Cette histoire-là frappe l'imaginaire.
Oui, mais qui tu crois au moment où ça arrive? Une police versus une autre police. On a une police qui se ramasse en politique. On n'avait déjà pas une très bonne opinion des politiciens. Et on a un gars qui semble être au-dessus de tout soupçon, Robert Lafrenière, qui est en charge de l'UPAC. Son gendre, qui est directeur de la police de la Sûreté du Québec, qui est Martin Prudhomme. Tu te dis, finalement, tout le monde doit être... La police doit être correcte là-dedans. Et là, on s'aperçoit bien après que il y a des petites affaires qui n'ont pas l'air d'avoir été faites comme il faut.
Ouais. Puis je pense que tout le monde a échappé à un grand principe que même moi, je connaissais mal, ce principe-là de la primauté parlementaire, que c'est comme un pays, dans le fond, ce qu'on a compris. Puis que là, la grosse erreur, c'est qu'on n'a pas travaillé avec le Parlement avant de rentrer sur un politicien ou un député. Là. C'est ce que je comprends.
Ben, on a juste à se souvenir de Jacques Chagnon, qui était président de la Chambre, justement, qui était
offusqué. Il était pas content.
Qu'on ait enquêté un député sans trop...
Sans viser le Parlement. Il aurait fallu qu'il... Je pense, en tout cas, j'imagine que les corps policiers ont appris de cette erreur-là. Hey, Daniel, c'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Puis on se reprend pour un autre sujet.
Je continue à dire que la politique est trop proche de la police.
Bonne idée.
La nouvelle réforme va peut-être arranger ça, du moins je l'espère.
Oh oui, c'est sûr que dans la cloison étanche entre la politique puis le reste, c'est toujours bienvenu, effectivement. Merci beaucoup.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On a vu la semaine dernière l'horreur des pensionnats autochtones. On a découvert des ossements. On parle de 215 jeunes et ça a fait beaucoup réagir. On savait que les pensionnats, on avait déraciné des familles. C'est toute une histoire au Canada, on le sait. Et il y a toute une réalité autochtone dont on parle maintenant en 2021. Il y a même le pape qui a dit que c'était un événement désolant. Par contre, il n'a pas voulu s'excuser. Il n'a pas tenu des excuses directes. Et ce drame-là, on veut bien le comprendre. On veut savoir, les pensionnats, pourquoi ils étaient là. C'était autorisé par le gouvernement. Et toute la situation autochtone de nos jours en 2021. Et on en parle avec Jean-Claude Therrien-Pinette, qui est le chef, le directeur du cabinet McKenzie et Washat Maliotenab. Je ne sais pas si je le dis comme faux. Bonjour, Jean-Claude.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Washat Maliotenab?
En fait, Washat Maliotenab, c'est deux communautés séparées d'une quinzaine de kilomètres. Il y a Washat qui est collé sur la municipalité de la ville de Sept-Îles et qui est dans la baie de Sept-Îles. Donc, Washat, c'est la baie. Mm-hmm. Et Maliotenab, c'est environ à 14 kilomètres à l'extérieur vers la rivière Moisy. Et pour traduire le nom du village, c'est le village de Marie.
Ah, intéressant. Et donc, c'est ça, vous œuvrez avec les communautés depuis longtemps, là?
Oui, je suis impliqué là à trouver des solutions pour favoriser un mieux-être individuel et collectif depuis environ une vingtaine d'années auprès des communautés autochtones au Québec et un peu partout au Canada. Mmh. Et je suis revenu là travailler spécifiquement pour ma communauté, mais toujours en collaboration aussi avec les autres communautés de la Nation Inuit. Mm-hmm. De la Côte-Nord.
OK. Et les pensionnats autochtones, comment vous voyez ça? Comment qu'on traite ça maintenant? Est-ce que c'est des séquelles pour les communautés, ces pensionnats-là?
Ben écoutez, c'est certainement que pour les enfants qui ont fréquenté, comme ma mère, ces institutions-là, c'est des événements qui ont été marquants par... La séparation des gens significatifs dans leur vie. On enlève des personnes significatives à des enfants, puis on les place dans des institutions qui culturellement n'est pas adaptée et qui ne reflète pas la réalité culturelle des enfants qui ont fréquenté ces institutions-là. Mm-hmm. En plus des sévices, puis des abus autant physiques, psychologiques que ces enfants-là ont vécu. Malheureusement, ces enfants-là sont devenus des adultes hypothéqués, des adultes qui avaient un manque d'amour, un manque d'estime de soi. Mm-hmm. Ces gens-là sont devenus parents et plus souvent qu'autrement, ont transféré leur traumatisme aussi à la nouvelle génération. Donc, c'est un épisode qui a été traumatisant pour ceux qui l'ont vécu, mais qui l'est toujours pour ceux qui ont grandi avec des gens qui avaient des comportements un peu désorganisés. Puis on parle souvent là, de transmission intergénérationnelle de l'ensemble de ces traumatismes-là. Mm-hmm. Donc, de génération en génération, on fait un travail sur soi pour être en mesure de devenir des meilleures personnes, des gens plus en équilibre au plan émotionnel, au plan mental, au plan physique, puis au plan spirituel.
Oui. Et est-ce que c'est important pour les communautés de reconnaître que ça a été un drame, une erreur, les pensionnats, même avec ce qui de voir que la religion ne veut pas s'excuser de ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est important?
Ben, pour nous, c'est sûr et certain que c'est un héritage que nous portons collectivement. Nous, on le reconnaît, on est en démarche de guérison de manière individuelle et collective depuis des décennies déjà, mais je pense que ce qui est important maintenant, je pense que c'est la population civile de manière plus élargie soit au fait des horreurs et des erreurs qui ont été commises par le gouvernement qui était en place à ce moment-là, puis les gouvernements qui se sont suivis. Mm-hmm. Et en ayant le support du clergé pour mettre en place un plan là, d'acculturation et un génocide culturel à bien des égards là, qui ont eu des conséquences là, dramatiques pour plusieurs générations.
Oui, effectivement. Puis on a vu le premier ministre s'excuser. Au moins, c'est un pas de reconnaître qu'il y a eu un problème. Maintenant, là, comment ça se passe de nous en 2021? C'est quoi la réalité autochtone? On peut commencer par ceux qui sont sur les réserves. Est-ce que ça va bien ou il y a beaucoup de travail à faire?
Ben, je vous dirais que les défis sont énormes. Premièrement, on a le défi de la pression démographique d'une jeunesse hein, qui est très populeuse. Hein. Dans certaines communautés, là, les jeunes de moins de 18 ans représentent 50% de la population. Il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de permettre à cette génération montante-là de pouvoir aspirer à des réalités au plan économique, au plan social, au plan culturel, mm-hmm. qui sont meilleures. Souvent, lorsque je suis en discussion là, avec des politiciens là, non autochtones, là, je leur fais référence là, au baby boom là, des années 50-60, lorsque le Québec avait une population très, très jeune, puis où est-ce que le taux de natalité dans les familles québécoises était très, très élevé. La société québécoise avait tous les leviers nécessaires pour partir des grands chantiers, mm-hmm. pour 67, puis les grands événements d'envergure, les grands chantiers là, à la Bay James et ainsi de suite, pour justement proposer des alternatives à cette génération-là qui était majoritaire pour les rendre actifs dans la société au plan économique. Nous, actuellement, autant qu'on a été des alliés, on a eu des alliances avec les étrangers à une certaine époque, parce qu'on commerçait, puis on était des alliés au plan économique, puis même dans certains endroits au plan militaire. Mm-hmm. Mais à un moment donné, l'attitude des non-autochtones a changé, puis on a vu qu'on était devenu un problème pour la société dominante. Donc, pour avoir accès aux ressources puis accès au territoire, ben, il fallait écarter ceux qui occupaient ce territoire-là. Donc, les intentions étaient de sédentariser les Premières Nations, s'assurer qu'ils s'intègrent, s'assurer qu'ils s'acculturent. Donc, c'est le plan... Le plan machiavélique, on pourrait dire, ouais. d'acculturation et de se débarrasser du
d'intégration malsaine.
D'intégration
ouais.
forcée, c'est ça. Ouais. Puis, on était un problème, puis pour solutionner le problème, ben, c'était de l'éliminer. Et comme on dit souvent, ben, l'intention, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Puis, ouais. Sauf que je crois que ça n'a pas fonctionné parce que
Non.
130 ans plus tard, on est toujours là.
Ben oui. Mais les jeunes, c'est encourageant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont le goût de est-ce qu'ils voient l'avenir d'un bon œil ou il y a trop de difficultés sur les réserves?
C'est sûr et certain qu'il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de répondre à la réalité psychosociale actuelle. Mm-hmm. Les substances ont changé. Comme pour la société québécoise, c'est la marijuana des années 70, c'est plus du tout là, ce qui circule, les drogues festives, l'alcool, c'est sûr et certain que ça fait partie d'une réalité, mais les impacts au niveau de la santé physique, la santé mentale, sont pas les mêmes. Fait qu'il y a des défis à ce niveau-là. Il y a des défis au plan économique. Il y a des défis au niveau de l'éducation aussi pour accrocher ces jeunes-là à développer des talents puis des outils au niveau de l'éducation pour être actifs au plan économique. Puis il faut que les conseils de bande obtiennent les leviers nécessaires pour favoriser et stimuler cette génération-là pour être bien puis s'épanouir là, comme tout le monde là, doit le faire. Mais je vous dirais qu'actuellement, il y a une vitalité au niveau des communautés. Les jeunes sont conscients de leur héritage historique, même si elle est lourde. On est des grandes nations. On a vécu des millénaires sur ce territoire-là. On était des grands nomades, des peuples organisés. On était très résilients. Mm-hmm. Souvent, j'avais un intervenant qui travaillait pour moi à une certaine époque. Il me disait, tu sais, Jean-Claude, il dit, c'est pas 400 ans de colonialisme qui va faire disparaître des peuples, que ça fait des millénaires qui y habitent sur ce territoire-là. Donc, c'est positif. Malgré les défis qu'on a, on a une vision quand même positive de l'avenir, mais il faut maintenir une proximité avec les gouvernements actuels pour être capable d'emmener des opportunités puis de dégager là, des leviers pour soutenir nos populations.
Oui, effectivement. Il faut que ça se fasse de la bonne manière parce que le but, c'est pas que les jeunes s'en aillent, c'est qu'ils soient intégrés puis que vous prospériez avec tout ça en collaboration avec le gouvernement. Là.
C'est ça. Puis de cesser de nous voir comme étant un problème ou des adversaires. Mm-hmm. On travaille actuellement à créer là, des occasions de rapprochement. Puis je crois actuellement qu'avec les initiatives qui sont mises en place pour créer des ponts de rencontre, des points de rencontre pour apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Mm-hmm. Je pense que c'était très intéressant. À Québec, il va y avoir l'événement Coué, qui va être un espace de rencontre pendant 17 jours qui va permettre aux gens de venir à la rencontre des Premières Nations. Il y a des musées qui mettent en place aussi des expositions pour. Mm-hmm.
C'est quelle date, ça, l'événement Coué?
Si je me souviens bien, là, c'est 17 jours en plein mois de juin.
Okay.
Sur la place Jean Béliveau, près là, du centre Vidéotron. Et ça va être une occasion là, unique cette année. C'est une formule renouvelée, là, parce qu'habituellement, c'était un événement qui se faisait au mois d'août devant l'Assemblée nationale. Mais ça va être une occasion pour la société civile de voir des artisans, d'aller
ben oui.
rencontre d'artistes, des gens qui sont fiers de partager.
Ben je pense. Ben oui, effectivement, on invite les gens à y aller. Je pense que c'est la meilleure solution d'apprendre à se connaître, voir toutes les beautés de ces communautés-là. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir éclairé avec la réalité autochtone. On souhaite là, que ça continue à aller dans le bon sens. Merci, bonne journée.
C'est le Scandin, Miami.
OK, je comprends ce que ça veut dire, mais vous montrerez comment le dire en ronde.
Merci.
Bye-bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Attaque à London, ce drame humain. Des accusations de terrorisme seraient possibles. Plusieurs le disent. En ce moment, je crois qu'on n'a pas déposé ces accusations-là. On va revoir un peu du côté criminel là, comment ça se passe avec ce prévenu. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour.
Bonjour à vous.
Maître Rancourt, peut-être faire un petit résumé. Là, cet individu-là, là, qui a, bon, on se rappelle l'histoire, qui a foncé sur une famille en véhicule, qui avait une veste par balle en sortant de ce véhicule-là. Un drame humain, un jeune enfant qui est à l'hôpital, ses parents et grands-parents sont décédés. Et là, on dit que c'est vraiment c'est un acte terroriste, mais il n'y a pas d'accusation encore. En ce moment, c'est quoi les accusations?
Ben, les accusations, dans le moment, pour le garder détenu, parce que on veut pas que, parce qu'on sait qu'il doit comparaître dans les 24 heures, donc on n'a peut-être pas toute la preuve avant de déposer les accusations les plus sérieuses. On l'accuse de négligence criminelle causant la mort à ce moment-là, mais des accusations plus importantes vont être déposées, ça, j'en suis convaincu.
Mm-hmm. Parce que dans le fond, ça sera des accusations de meurtre premier degré, dans le fond, avec l'intention ou...
Absolument, parce que c'est clair que, et de la preuve qu'on sait dans le moment, il aura acheté ce véhicule-là il y a quelques semaines uniquement, et il s'en est servi. Il est clair qu'il s'en est servi pour tuer des gens. Donc, on parle de meurtre au premier degré. Et
Tentative de meurtre sur le jeu.
Exact, tentative de meurtre sur les autres. Là. Mais okay. Il y a quatre décès, donc c'est quatre meurtres au premier degré, oui.
Mm-hmm. Et pourquoi, là, c'est ça, on veut parfaire la preuve, mais qu'est-ce que ça prend pour que... Parce qu'on a vu le cas à Québec là, d'Alexandre Bissonnette, où est-ce qu'on n'a jamais porté d'accusation de terrorisme. Là. C'était des meurtres. C'est le crime le plus grave, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça prend là, pour qu'on porte des accusations de terrorisme?
Ben, écoutez, je comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait dans le cas de Bissonnette, comme vous dites, là.
Mm-hmm.
Mais il s'agit de démontrer que les actes posés ont pour but de causer la terreur, hein, de faire en sorte que les gens vont avoir peur, de semer la peur, semer alors à ce moment-là, dans le cas qui nous préoccupe, il serait pas surprenant qu'on porte des accusations de terrorisme, mais vous savez, peu importe, on porte des accusations de meurtre au premier degré. Alors si l'individu est déclaré coupable, que ce soit de meurtre ou de terroriste, c'est l'emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 25 ans, et on sait que c'est rendu dans la Cour suprême, où on veut savoir si on peut accumuler des sentences de 25 ans minimum avant d'être éligible aux libérations conditionnelles. Dans ce cas-là, 4 décès, est-ce qu'on pourrait dire, ben, c'est 25 ans, 4 fois, ça fait 100 ans, éventuellement la Cour suprême va se pencher là-dessus et rendre une décision, là.
Mm-hmm. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des accusations de terrorisme ou pas, légalement parlant, ça ne changera pas grand-chose.
Absolument, ça ne change pas grand-chose, compte tenu que l'accusation la plus importante au code criminel, qui est le meurtre au premier degré, va l'emporter. Mm-hmm. Ça ne change pas grand-chose au niveau des libérations conditionnelles, mais on sait que et si on en a déjà parlé ensemble, meurtre au premier degré, emprisonnement à perpétuité avec minimum de 25 ans, mais au bout de 25 ans, ça ne veut pas dire que vous allez sortir.
Mm-hmm.
Alors quand vous avez commis un acte terroriste comme celui-là, ça serait surprenant que l'individu puisse sortir au bout de 25 ans.
Ouais. Non, c'est effectivement, pour ce qui est de la sentence, c'est les sentences les plus graves au code. Mais est-ce que, parce que les gens réclament là, ces accusations-là, est-ce que socialement parlant, le DPCP en Ontario, est-ce qu'il y a une forme de devoir de dénonciation de ce genre de crime-là? Est-ce que ça peut jouer, ça, dans le dépôt des accusations?
Ça peut jouer certainement, parce que on a vu ici au Québec, on ne l'a pas fait, mais là-bas, en Ontario, est-ce qu'on va le faire? Est-ce que le fait que les gens réclament ce genre d'accusation-là de terrorisme, est-ce que le procureur de la couronne là-bas de l'Ontario va décider de le faire. Possiblement qu'il le ferait, mais ça change, comme on le dit, ça change pas grand-chose au prix des bananes à la fin. Là, ça va être la même sentence. Là.
Mm-hmm. Puis pour qu'il y ait ces accusations de terrorisme-là, il faut vraiment démontrer que le prévenu là, en avait après les musulmanes là, qui ciblaient du monde.
Non, mais que son intention était de causer la peur, la terreur, hein, c'est ça, terroriste, mmh. terreur, faire en sorte que les gens vont être aux alentours et de cette communauté-là vont être apeurés terriblement. Donc, c'est du terrorisme.
Mmh. Et dans des cas où est-ce qu'on ne parle pas de meurtre, là, qui est des accusations qui peuvent être moins graves, là, si on ajoute les accusations de terrorisme, c'est là que ça devient plus lourd, là.
Ouais, ça devient plus lourd, mais à la fin, ça va être des libérations conditionnelles et il y a possiblement, même avec les accusations de terrorisme, il est possible que il n'y a pas de libération. Hein,
mm-hmm. Ouais, c'est ça pour la prison, mais mettons que quelqu'un n'a pas fait un meurtre, tu sais, qu'il n'ira pas en prison à vie, mais qu'on ajoute des accusations de terrorisme, ils ne sont pas là pour rien, c'est que ça vient permettre de donner des sentences plus sévères. Si on ne parlait pas de meurtre, là, qu'on parlait des crimes.
Si c'était simplement des tentatives de meurtre, par exemple, ouais. ou voies de fait avec des ions, dans un cas comme ça, et on ajoutait le terrorisme, mais là, la sentence pourrait être beaucoup, beaucoup plus importante.
Mm-hmm. Oui, OK. Parce que dans le fond, on peut cumuler les peines si c'est du terrorisme. Là. C'est un peu ça. Mettons, quelqu'un a commis plusieurs infractions, mais on ajoute l'infraction de terrorisme. Là. Ça permet de cumuler les peines.
Oui, absolument.
OK.
Cumuler les peines, mais encore là, on cumule des peines, mais c'est toujours en fonction des libérations conditionnelles éventuellement. Peut-être qu'on n'aura jamais de libération.
Mm-hmm.
Mais vous savez, on n'a pas de peine encore, de peine de mort. Hein? Puis on n'a pas de peine quand on dit emprisonnement à perpétuité, on peut pas avoir plus que ça au Canada. Là.
Oh oui, voilà. C'est ça. Donc je parlais plus des cas, mettons que c'est pas la prison à vie, c'est d'autres genres de crimes.
Ouais.
Mais puis ce qu'on assiste des fois, le danger de tout ça aussi, c'est que ces prévenus-là influencent d'autres personnes. Est-ce que ça c'est un problème aussi?
Ben écoutez, vous savez, ces gens-là qui commettent ce genre de crime-là, ils sont psychologiquement atteints. Là. Il y a un problème psychologique. Et est-ce que ça va influencer des gens qui seraient portés à commettre le même genre de crime? À mon avis, non. Même mm-hmm. si on donne la sentence la plus sévère, ces gens-là ne sont pas psychologiquement aptes à comprendre que s'ils commettent ce genre de crime-là, ils vont être en prison pour le restant de leur jour. Alors, c'est ça qui est terrible dans ce genre d'accusation-là et d'individus. C'est qu'on peut pas essayer de démontrer par une sentence extrêmement sévère qu'il faut pas commettre ce genre de crime. Là,
ouais.
Les gens ne pensent même pas aux conséquences de leur geste.
C'est difficile de les dissuader. Et justement, là, cette personne-là, on pourrait-tu assister à une non-responsabilité criminelle ou?
Ben, peut-être. Est-ce que les avocats de la défense vont demander un examen psychiatrique? Possiblement. Et on verra. Mais de plus en plus au Canada, on a de la misère un peu à passer ce genre de défense-là. Alors oui, c'est possible, mais c'est pas évident.
Mm-hmm. Parce que même s'il y a des problèmes psychiatriques, même s'il est fou, comme on dit, ça veut pas dire qu'il est non criminellement responsable. Là.
Absolument, il faudrait qu'il y ait une maladie vraiment importante qui est dans le code des médecins là,
mm-hmm.
pour démontrer que l'individu ne savait pas différencier le bien du mal, mais là, il faut aller loin. Là, et c'est, rappelons-nous l'affaire Turcotte et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans la façon de penser des tribunaux et des jurés, par exemple, qui ont décidé si un individu était atteint d'une maladie mentale qui faisait en sorte qu'il n'était pas criminellement responsable. C'est de beaucoup beaucoup plus difficile de passer cette défense aujourd'hui.
Mm-hmm. Non, c'est pas automatique. Là.
Non.
Et là, les gens se posent beaucoup de questions sur un individu qui sort du véhicule avec sa veste pare-balles. C'est, pourquoi on assiste à ça? C'est, pourquoi il aurait fait, il aurait mis une veste comme ça?
Ben, c'est difficile. On sait pas son intention, mais ça démontre la préméditation. Ça démontre qu'il y avait l'intention de commettre ce genre de crime-là. Pourquoi une veste par balle? Vous savez, l'individu, il est, comme je le disais, au point de vue mental, il y a un problème, là. Mm-hmm. Alors, pourquoi il a porté cette veste-là, on ne le sait pas. Peut-être qu'il se disait, je vais commettre mon crime, puis les policiers vont vouloir me tirer dessus. Alors, je porte ma veste par balle, mais difficile à comprendre, mais ça démontre la préméditation.
Oui, ça vient faciliter la preuve de dire qu'il voulait vraiment faire ça. Ouais, là. C'est pas un accident d'auto, là, clairement. Ouais, là. Ouais. En tout cas, on aura plus de réponses dans ce dossier-là. Là. C'est toujours assez traumatisant de voir ce genre de drame-là. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, on voit des gens utiliser des véhicules. C'est aussi pire qu'une arme, là, à prendre un auto. Là.
Absolument. Mm-hmm. Et c'est ça qui est bien de valeur, parce que c'est tellement facile pour un individu de prendre un véhicule puis de foncer sur des gens. Alors, là, c'est pire qu'un arme, parce que là, vous allez foncer, on l'a vu à Toronto, sur un trottoir, et vous allez tuer des gens tant que vous voulez. Là. Alors, c'est extrêmement préoccupant.
Oui, puis les personnes s'attendent pas. On s'attend pas à, quand on marche dans la rue que tout d'un coup, un véhicule nous fonce dessus. C'est ça la terreur que ça amène aussi. Merci beaucoup, Maître Ancaud, d'avoir éclairé dans ce dossier-là.
Bonne journée.
Bonne journée.
Cube Radio.